Et il est important de connaître Jésus-Christ. Nous avons distingué la dernière fois ces trois sciences en notre Seigneur, la science béatifique, dans son âme humaine. Il voit sa divinité. Il connaît sa divinité. Et puis la science infuse ensuite, qui lui est communiquée par sa divinité, science connaissance des mystères de Dieu, pour qu'il puisse les révéler aux hommes, les faire connaître aux hommes. Et puis ensuite, cette troisième science, toujours selon sa nature humaine, science acquise, c'est celle qu'il acquiert par le fonctionnement normal de sa sensibilité humaine, de son imagination, de sa mémoire, de son intelligence humaine, comme nous-mêmes. Ouais. Nous acquérons nous aussi une science par l'expérience, etc. Eh bien, Jésus-Christ aussi. Ouais. Et une autre question qui revient à ce que nous traitions la dernière fois plus proprement sur la question de la prière de notre Seigneur, et il est sûr qu'il y a un mystère, ce sont les rapports de notre Seigneur et de Judas. Oui. C'est une chose troublante, ce mystère de Judas. Qui est un mystère, Judas? Car notre Seigneur a prié pour Judas, ça nous l'avons vu, c'est clair, plusieurs fois, et notre Seigneur insiste, on peut dire qu'il appelle Judas, il essaie d'attirer son attention, on sent bien ce désir que notre Seigneur a de prévenir Judas, de lui dire, mais je sais ce que tu vas faire. Mais pour que Judas se dise, mais ça y est, je suis repéré un petit peu, si vous voulez, essayer un petit peu de l'appeler au repentir, à la conversion, de l'empêcher. Notre Seigneur a prié pour Judas, et notre Seigneur a été exaucé, parce que Judas a reçu toutes les grâces dont il avait besoin. Et la prière de notre Seigneur, sa prière certaine, sa prière délibérée, qui n'est pas, je dirais, cette sorte de désir naturel, une sorte de soubresaut un peu de la nature qui fait que parfois nous crions vers Dieu, mon Dieu, délivre-moi, ou je ne sais quoi, comme l'a fait notre Seigneur au jardin des Oliviers, Père, si c'est possible. Ça, c'est une sorte de cri de sa nature, qui ne veut pas mourir. Cette prière-là, bien sûr, n'est pas exaucée, mais la prière délibérée, consciente, réfléchie, qui veut vraiment le bien, qui veut vraiment la volonté de Dieu, celle-là est toujours exaucée en notre Seigneur. Il a demandé pour Judas toutes les grâces. Il les a obtenues. Judas a eu toutes les grâces dont il avait besoin pour se sauver. Mais après, c'est comment chacun d'entre nous, si vous voulez, notre Seigneur prie pour chacun d'entre nous, et pourtant, nous commettons des péchés, et pourtant, certains d'entre nous se damnent, etc. Si vous voulez. Et pourtant, ça n'est pas la faute de Jésus-Christ. La prière de Jésus-Christ est exaucée lorsqu'il demande pour chacun d'entre nous les grâces nécessaires à notre conversion et à notre salut. Nous les obtenons. Mais qu'est-ce que nous en faisons après? Voilà la question. Alors ça, il ne faut pas en faire le reproche à Dieu ou à notre Seigneur. Là, c'est nous. Ça. Et ensuite, il y a la question de Judas. Ça déborde un petit peu. Ce problème de Judas, et même de l'existence de Judas, si on peut dire, ou il y a la nécessité du péché de Judas. Mais si Judas n'avait pas trahi notre Seigneur, notre Seigneur ne serait pas mort sur la croix, et donc nous ne serions pas sauvés. Donc il fallait que Judas trahisse. Donc Judas, le pauvre vieux, il est en enfer, alors que, un petit peu, c'est le bon Dieu, presque un petit peu, qui l'aurait forcé à aller en enfer, parce qu'il fallait que Judas trahisse notre Seigneur. Non, c'est pas vrai. Il fallait que Jésus-Christ, bien sûr, meure sur la croix. Mais je dirais, la façon dont il serait conduit à la croix, ça pouvait varier, il y avait beaucoup de façons pour lui d'être pris, arrêté, crucifié. Il n'était pas forcément nécessaire qu'il y ait cette trahison de Judas. D'autant plus que les Juifs savaient très bien, ils savaient, fait assez longtemps que Jésus-Christ vivait au milieu d'eux, ils savaient très bien où ils pouvaient l'attraper, ne pas l'attraper. Donc ils auraient pu l'attraper à un autre moment, à une autre occasion. Donc Judas n'a pas été déterminé, obligé à trahir notre Seigneur. Il l'a fait librement, il l'a fait volontairement. Il n'était pas obligé de le faire. Et cela a été permis tout simplement par Dieu. Ça a été permis par Dieu. Dieu l'a laissé faire, comme étant un moyen pour la rédemption, pour le salut des hommes. Permis par Dieu, tout simplement. Et puis, il faut faire attention aussi que le plus grand péché de Judas, le vrai péché de Judas, ça n'est pas la trahison. Ce n'est pas la trahison. Ce n'est pas vrai, ça. Je ne dis pas que ce soit bien de trahir, ça c'est clair. Mais ce n'est pas cela qui est le péché, je dirais. Le vrai péché de Judas, Donc avoir trahi notre Seigneur pour permettre la rédemption en soi, c'était tout à fait pardonnable. Et regardez Saint-Pierre, hein. Bon, ce n'est pas peut-être une trahison proprement, mais renier son maître comme il l'a fait, c'est quand même pas brillant. Hein. Vous savez, c'est pas extraordinaire. Hein. Bon, mais seulement qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après Saint-Pierre, il est allé pleurer sa faute. Il a pleuré sa faute et puis il a été pardonné. Voilà, ça va bien ça. Ça va bien. Mais Judas, ben, il n'a pas pleuré. Il a bien compris qu'il avait mal fait. Il a compris qu'il avait mal agi. Oui, puisqu'il est allé jeter l'argent dans le temple, etc. En essayant un petit peu, si on peut dire, de réparer la faute qu'il avait faite. Donc il a bien vu qu'il avait mal agi. Il a donc même un certain remords, un certain repentir de sa faute. Oui. Et où est le péché de Judas? Eh bien, c'est qu'il n'a pas cru à la miséricorde. Voilà. Il n'a pas cru que Jésus-Christ pouvait lui pardonner. Alors que Jésus-Christ ne demandait que ça. Jésus-Christ ne demandait qu'à lui pardonner. Il priait pour lui, précisément. Oui. Jésus-Christ ne cessait de prier pour Judas, mais Judas n'a pas cru. Il a manqué. En fait, il a péché contre l'espérance. Oui. Désespoir, c'est un péché contre l'espérance. Et il est clair, ça, que notre Seigneur savait que Judas allait le trahir. Hein. Il le savait. Oui, il savait très bien. Et ça, c'est par sa science infuse, sans doute. Oui, il savait que Judas allait le trahir. L'Évangile nous le dit de façon explicite. Hein. C'est dans Saint Jean. C'est très... Quand on lit ces passages, c'est un petit peu bouleversant. Hein. C'est... Passage où nous voyons notre Seigneur en rapport avec Judas, du moins dans les derniers moments, dans Saint Jean chapitre 13 par exemple, verset 10, 11. Vous voyez, c'est explicite. Jésus lui dit, celui qui vient de se baigner n'a pas besoin de se laver, mais il est entièrement net. Vous aussi, vous êtes net, mais non pas tous. Ouais, vous n'êtes pas tous purs. Et l'évangéliste, Saint Jean, ajoute, il savait en effet qui allait le livrer. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en esprit et il fit cette déclaration. En vérité, je vous le dis, un de vous me livrera. Et c'est alors que les disciples s'interrogent entre eux. Ouais. Qui donc est-ce? Et dans Saint Matthieu, cet autre, ça c'est peut-être la phrase la plus terrible de l'évangile, hein, au chapitre 26. Je vous le dis, en vérité, l'un de vous va me trahir. Profondément attristé, ils se mirent à lui dire chacun de son côté, serait-ce mon Seigneur? Il répondit, celui qui met avec moi la main au plat, c'est celui-là qui va me trahir. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme va être livré. Mieux vaudrait pour cet homme n'être pas né. Mieux vaudrait pour cet homme n'être pas né. C'est de là qu'on infère de façon logique, le pauvre Judas, on n'y peut rien, hein, mais que Judas n'est pas sauvé. Judas n'est pas sauvé. C'est. On a une quasi-certitude, c'est notre Seigneur qui nous le dit. Mieux vaudrait pour lui n'être pas né, n'être jamais né. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir, je dirais, de plus dramatique que le fait de n'être jamais né, donc le fait de ne pas exister. Qu'est-ce qu'il y a de plus dramatique que ça? Et sinon, d'être précisément damné, d'être en enfer. Oui. Oui. Donc tout cela, oui, notre Seigneur le savait. Et puis il y a une autre petite phrase de notre Seigneur à Judas aussi qui peut être un petit peu étonnante. Oui. C'est quand Judas s'en va, il quitte donc le cénacle pour aller trahir Jésus-Christ. Et notre Seigneur lui dit, quod facis fac citius. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Oh. Ouais. Alors comment expliquer un petit peu cette phrase un peu troublante? Il dit, alors, c'est finalement, mais Judas il n'a fait qu'obéir. Hein. Il dit, ben, dépêche-toi de le faire. Ouais, attention, hein. Ce n'est pas tout à fait cela. Ouais. Car saint Thomas nous explique là, un peu cette citation avec tous les pères de l'Église, que cela n'est ni un ordre, ni un conseil, mais une permission. Ce que tu veux faire, eh bien, tu peux le faire. Mais dépêche-toi de le faire. Voilà. Voilà. Et parce que, nous dit l'Évangile, le démon avait déjà mis dans le cœur de Judas de livrer Jésus-Christ. La décision était déjà prise dans le cœur de Judas. Il avait déjà tout arrangé avec les princes. Mais, malgré tout, hein, c'est Jésus-Christ qui est le maître. Vous voyez, c'est très beau de considérer dans la Passion comment Jésus-Christ domine les événements. Jésus-Christ est Dieu, il est le Fils de Dieu. Il reste le maître des choses, le maître des événements. Et Judas ne peut rien faire sans la permission de Jésus-Christ. Voilà. Donc Judas avait tout arrangé, tout était décidé dans son cœur, dans son esprit, tout était organisé, mais il ne pouvait pas le faire si Jésus-Christ lui-même ne le lui permettait pas. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui va donner sa vie, n'oublions pas cela. Vous avez cette phrase dans Saint Jean, au chapitre 10, verset 18, « Personne ne m'enlève ma vie, personne ne me prend ma vie, mais c'est moi-même qui la pose, qui la dépose, qui la donne. C'est lui qui donne sa vie. Et c'est lui qui détermine sa mort, et le moment de sa mort. » Donc Judas ne peut pas le livrer si Jésus-Christ ne lui en donne pas la permission. Ouais. Alors ce que tu as à faire, fais-le vite. Ouais. Mais, ouais, pourquoi fais-le vite? Fais-le vite, dépêche-toi de le faire. Eh bien, parce que Jésus-Christ est brûlé tout le long de l'Évangile. On le sent cela par ce désir de son heure. Il est tendu vers son heure, il a soif de son heure. Hein. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, etc. Tout le temps, on le sent, je dirais, il a hâte un petit peu d'opérer notre salut. Hein. Eh bien, c'est pourquoi il dit à Judas, mais dépêche-toi de le faire, car l'heure est venue, alors ne traîne pas. Voilà, que je puisse enfin dire à mon Père au nom des hommes que je l'aime, et dire aux hommes au nom de mon Père que mon Père les aime. Voilà. Il a soif de cette heure de la croix, cette heure où il va bien précisément réaliser cet acte sacerdotal par excellence, hein. C'est celui du calvaire, celui de la croix. Voilà quelques petites explications, petits compléments d'explications sur ce que nous avons déjà considéré, et ça nous conduit donc tout naturellement, après ces considérations sur la prière de Jésus-Christ, à considérer ce que nous aurions dû considérer la fois précédente, mais comme je suis trop bavard, ouais, eh bien c'est la question du sacerdoce de notre Seigneur. Le sacerdoce est une chose qui est magnifique, bien sûr, surtout bien sûr pour un prêtre, que de parler, de considérer le sacerdoce de Jésus-Christ. Et c'est une chose importante pour vous, hein, pour les fidèles, je crois, de connaître et de comprendre un peu ce qu'est le sacerdoce de notre Seigneur. Parce que l'Église est essentiellement sacerdotale. Et je crois que si l'Église connaît une crise épouvantable aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'on n'a pas compris ce qu'était le sacerdoce. Mais c'est là la clé de tout. Hein. Une méconnaissance ou un mépris, peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas être trop sévère, mais du sacerdoce, de ce qu'est le sacerdoce. Peut-être à cause d'une méconnaissance de ce qu'est le sacerdoce en notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Pourquoi c'est important, je crois, de considérer un petit peu ce qu'est le sacerdoce du Christ. Alors saint Thomas d'Aquin, bien sûr, examine cette question-là. Hein, il se pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il convenait que le Christ fût prêtre? Est-ce qu'il convenait qu'il soit prêtre et victime? Oui, c'est surtout ces deux questions-là que nous considérerons, parce que ce sont les plus importantes. Oui. Et la question du sacerdoce, eh bien, se ramène à la question de la vertu de religion. La vertu de religion, qui est une vertu qui relève d'une autre vertu plus importante encore, la vertu de justice. La vertu de justice. Et nous vivons dans un monde qui est profondément injuste. Injuste. Le monde où nous vivons ne connaît plus la véritable justice. Il ne sait plus ce qui est dû et à qui c'est dû. Il ne sait plus, le monde ne sait plus qu'il a des devoirs envers Dieu. Et c'est ça la vertu de religion. La vertu de religion, c'est cette vertu qui nous incline à rendre à Dieu les devoirs que nous lui devons, simplement. Le culte, l'honneur, la louange, l'action de grâce que nous lui devons, parce qu'il est notre Créateur, parce qu'il est notre Père, parce que sans lui, nous n'existerions pas. Il est évident qu'étant dans une telle dépendance par rapport à Dieu, mais nous avons envers lui des devoirs. Des devoirs. Mais c'est une chose que le monde ne sait plus. C'est un monde injuste qui ne veut plus rendre à Dieu ce qui lui est dû. Un monde injuste, donc un monde irreligieux, un monde impie, au sens propre du mot, sans piété filiale, oui, justement, il ne sait plus aimer son père, etc. Un monde irrespectueux. On ne respecte plus les choses, les personnes, l'autorité, les gens constituant en dignité, on ne respecte plus rien. Ouais. Et un monde ingrat, ingrat, un monde qui ne sait plus dire merci. C'est vrai, ça. Même chez les enfants. Eh oui, on ne sait plus dire merci. C'est terrible, ça. C'est invraisemblable. Oui, et ça, d'où ça vient? Mais ça vient justement de la Révolution, bien sûr, et notamment, eh bien, je dirais, de cette nouvelle religion des droits de l'homme. Voilà, les droits de l'homme. Il est évident que si j'ai des droits, et si je suis le seul à avoir des droits, pourquoi voulez-vous que je dise merci à quelqu'un? Aucune raison, au contraire, c'est aux autres à me considérer avec beaucoup de vénération et à être bien content que je m'occupe d'eux. Ouais. Pourquoi voulez-vous que j'ai quelques respect pour les autres si je n'ai que des droits, si je n'ai aucun devoir? Alors à force de nous seriner avec leurs droits de l'homme, eh ben on fait un monde qui est injuste, profondément injuste, un monde qui est inversé, complètement inversé. Ouais. Ouais. Donc cette vertu de religion, hein, qui incline l'homme à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Et dans cette vertu de religion, bien sûr, au cœur de cette vertu de religion, eh bien, nous trouvons précisément le prêtre. Le prêtre. Et quel est l'office du prêtre? Quel est l'office sacerdotal, la raison d'être du prêtre? Eh bien, saint Paul nous le dit dans l'Épître aux Hébreux. Qu'est-ce que le prêtre? Eh bien, c'est un homme pris d'entre les hommes et pour eux constitué ministre de Dieu. Oui, un homme pris parmi les hommes et constitué dans les choses qui concernent le culte de Dieu pour les hommes. Ouais. Le rôle du prêtre, donc, c'est cela. Il est pris parmi les hommes, il s'occupe de ce qui a trait à Dieu, mais pour qui? Pour les hommes. Ouais. Et cela est de droit naturel. Saint Thomas d'Aquin, si vous voulez, voilà ce qu'il nous dit, c'est un peu plus précis peut-être, dans la somme théologique. L'office propre du prêtre et d'être médiateur entre Dieu et le peuple. Et c'est là, hein, c'est sûr, là, qui est la caractéristique ultime du prêtre, c'est ce caractère de médiation, médiateur. Le prêtre, il fait la médiation entre Dieu et les hommes. Voilà. Il est entre Dieu et les hommes. Il est pris parmi les hommes, mais il est mis un petit peu à part des hommes, au-dessus des hommes, pour faire le médiateur entre les hommes et Dieu. Donc il est un pauvre homme comme les autres, c'est clair, mais on essaie de l'élever un petit peu au-dessus pour qu'il se rapproche de Dieu et qu'il puisse parler à Dieu au nom des hommes et ensuite parler aux hommes au nom de Dieu. C'est cela que dit saint Thomas. Donc c'est d'être médiateur entre Dieu et le peuple, pour autant qu'il livre au peuple les choses divines, il donne au peuple les choses divines, voilà, il considère Dieu, il puise un peu dans le trésor du cœur du bon Dieu, hein, pour ensuite donner eh bien, tous ces trésors aux hommes, en telle sorte, continue saint Thomas, que le prêtre, en latin sacerdos, eh bien, se dit comme donnant les choses saintes, sacra dans. Oui, c'est l'étymologie du mot sacerdos, c'est celui qui donne les choses sacrées, sacra, les choses sacrées, dans, celui qui donne, oui. Donc le prêtre, c'est celui qui donne les choses sacrées. Seulement, il ne les a pas, ces choses sacrées en lui-même. Donc il faut qu'il les prenne où elles sont, c'est-à-dire en Dieu. Donc d'abord, le prêtre est médiateur entre Dieu et le peuple, livre au peuple les choses divines, voilà. Et par contre, ensuite, il offre à Dieu, alors ça c'est l'autre sens de la médiation, il offre à Dieu les prières du peuple. Il prie au nom du peuple et il présente à Dieu les prières du peuple. Et il satisfait en quelque manière à Dieu pour leurs péchés. C'est ce qui fait dire à saint Paul, tout pontife, c'est ce que nous disions, pris d'entre les hommes est établi pour les hommes dans les choses qui regardent Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Voilà ce qu'est le prêtre, hein, médiateur. Et cela est de droit naturel. Vous voyez, ce sacerdoce est de droit naturel. Vous voyez, et on observe ça dans toutes les sociétés. Toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, quelle que soit, je dirais, l'époque, quel que soit le lieu, le temps, etc., dans toute société, on observe qu'il y a, eh bien, au milieu de tous ces hommes-là, qui sont occupés aux choses du temps, s'occuper un petit peu de telle ou telle profession, de la famille, etc., eh bien, il y a des hommes qui sont séparés de cette foule, des hommes, pour représenter, justement, la société auprès de Dieu, qui prie au nom de la société et qui intercède pour la société et qui ensuite représente aussi la divinité, représente Dieu auprès du peuple. Oui. Et cela est une nécessité sociale. incontestable, universelle. C'est une nécessité sociale. Une société qui n'a plus de prêtres, c'est une société qui va à la mort. C'est une société qui va à la mort. Hein, parce qu'elle se coupe. Elle se coupe tout lien, toute relation avec son créateur. Et donc, eh bien, à partir du moment où le lien vital n'existe plus entre le créateur et les hommes, eh bien, la vie va cesser. La vie va cesser. Même la vie simplement naturelle, un jour ou l'autre, elle cessera. Si les hommes ne veulent pas retrouver ce lien avec Dieu par un office sacerdotal, la société des hommes, un jour, va disparaître. La vie va disparaître de la terre, ça c'est clair, ça. C'est clair. Parce que la vie est un don de Dieu. Même la vie naturelle, la simple vie naturelle, est un don de Dieu. Il ne faut pas croire que les hommes peuvent, se transmettre la vie comme ça, de génération en génération, sans que Dieu intervienne. Dieu intervient à chaque fois. Chaque fois qu'il y a une génération d'un enfant, Dieu intervient. Et qui crée les âmes, dites ? Ce n'est pas les parents qui créent les âmes, attention. Hein. C'est le bon Dieu qui crée les âmes. Eh bien, si les sociétés ne veulent plus, oui, se tourner vers Dieu et maintenir ce lien avec Dieu, eh bien, un beau jour, le bon Dieu s'arrêtera de s'occuper de nous. Il ne créera plus d'âme. Et les hommes et les femmes pourront faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y aura plus rien. C'est fini. Puis voilà. Puis le monde va vieillir. Et puis après, on aura des générations de vieillards qui mourront les uns après les autres. Et puis, pouf. Voilà. Terminé. Bon. Ça, voilà. À nous de choisir. Quoi. Bon, nous, on l'a choisi, je pense. Mais enfin... C'est effrayant, hein. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est vraiment, on dirait, à l'envers de tout. Je crois qu'on n'a jamais vu ça, hein. Jamais vu ça. Hein, c'est ce monde qui vraiment ne veut plus, vous voyez, le prêtre. Et ce qui est grave, justement, ben, c'est que, bon, sans vouloir être trop sévère, hein, mais c'est que ce mépris et ce refus du prêtre, eh bien, pénètre l'Église. Il pénètre la Sainte Église. Hein, avec tout excusez-moi, mais tout ce primat du laïcat et les adap, et en avant, messieurs, mesdames, allez-y, c'est vous qui êtes prêtres, et on supprime tout le véritable sacerdoce. Et alors qui va faire l'intermédiaire? Qui va faire le médiateur entre les hommes et Dieu? Qui? Je ne sais pas, on verra bien. Enfin, pour l'instant, on est là encore, donc ça va bien, mais enfin... Bon, puis tout ne s'est pas perdu encore, c'est pas fini, attention, hein, il peut y avoir des conversions quand même. Oui, il y a donc une nécessité sociale qui est celle du sacerdoce. Oui. Et, je dirais à la limite au début, même sans doute. Oui. Admettons une société, enfin, de toute façon on le voit, même dans l'histoire des hommes, oui. Ce rôle sacerdotal peut être réalisé tout simplement par les pères de famille. Les pères des familles, oui, qui font un petit peu le rôle de médiateur au nom de leur famille, entre la famille et Dieu. Bon, oui. Ça peut être les patriarches, dans l'Ancien Testament, nous voyons les patriarches. Les patriarches, eh bien, qui réalisaient cet office sacerdotal. C'était eux, vous voyez, qui imploraient, qui suppliaient auprès du cœur de Dieu. Vous voyez. Ou bien les chefs primitifs des sociétés. Parfois c'est une caste même, une caste élue, une caste héréditaire qui exerce un peu ce sacerdoce. Mais partout, dans tous les peuples, on observe une certaine fonction sacerdotale. Bon, elle peut être exercée par tel ou tel, ça je dirais à la limite, ça n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait cet office sacerdotal. Oui. Et cela aurait même très certainement existé dans l'humanité sans le péché originel. Hein. Sans le péché originel, très certainement, il y aurait eu aussi cet office sacerdotal. Bon, ce que faisait Adam, très certainement, eh bien, se livrait au culte de Dieu, comme cela, s'il avait eu ensuite des enfants, que le monde se soit... que l'humanité se soit perpétuée sans qu'il ait le péché originel, mais ne serait-ce que dans une famille. Dans une famille. Vous voyez, mais qui va réaliser l'office de médiateur? Mais c'est, naturellement, c'est le père de famille. Ça va de soi, c'est le chef, c'est celui qui a l'autorité, celui qui a la primauté. C'est lui qui va réaliser ce rôle de médiateur. Ouais. Même indépendamment, vous voyez, du péché originel. Ouais. Dans une société donc innocente, ouais. Société innocente, l'homme demeure malgré tout un être social. Donc il faut une certaine organisation, un certain ordre, et donc des chefs. Ouais. Eh bien, ce sont les chefs de ces sociétés qui auraient alors exercé cet office sacerdotal. Ouais. Le sacerdoce est donc une exigence sociale, et non pas seulement, je dirais, une institution d'ordre privé. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ a institué le sacerdoce que le sacerdoce existe. Hein. Le sacerdoce a toujours existé. Bon, ce que Jésus-Christ a institué, c'est un certain type de sacerdoce bien particulier, bien spécial, ça, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, c'est clair. Hein. Mais avant lui, même, il y avait déjà un certain office sacerdotal. Oui. Et ce qu'il faut retenir, donc, c'est que le rôle propre du sacerdoce et du prêtre, eh bien, c'est donc d'être médiateur, de donner Dieu aux hommes, donner Dieu aux hommes, et donner les hommes à Dieu. Oui, ce que dit ici le père Liebermann, par exemple, la fonction du prêtre étant d'être médiateur entre Dieu et les hommes, il a donc deux fonctions à remplir. Voilà les deux fonctions sacerdotales essentielles. La première, représenter les hommes auprès de Dieu et les réconcilier avec lui, donc implorer, prier auprès de Dieu pour les hommes, pour les réconcilier avec lui. Et la seconde, de représenter auprès des hommes le Dieu de toute sainteté, et représenter Dieu auprès des hommes, afin de répandre sur eux ses faveurs, les attirer à lui, les mettre en communication avec lui et les remplir de sa vie et de sa sainteté. Vous voyez, deux fonctions sacerdotales, hein, du médiateur. Oui. Alors, bon, cela étant, est-ce que notre Seigneur, eh bien, puisqu'il faut en venir quand même à lui, est-ce que Jésus-Christ a réalisé cette fonction du sacerdoce? La réponse, bien sûr, vous la connaissez, c'est oui. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment il l'a exercé. Eh bien, d'abord, il y a la première fonction. Première fonction, ou plutôt c'était la deuxième, enfin, peu importe. Non. Qui est de donner Dieu aux hommes. Eh bien, il est évident que notre Seigneur a donné Dieu aux hommes, et de deux façons, essentiellement. Hein. Ces deux façons qui nous sont rapportées par saint Jean dans le prologue de son évangile, lorsqu'il nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais voilà les deux façons dont Jésus-Christ a donné Dieu aux hommes, la grâce et la vérité. La vérité, mais par son enseignement, l'annonce du royaume de Dieu, l'annonce de la promulgation des commandements de la loi nouvelle. Bon, ce serment sur la montagne, nous en avons parlé l'année dernière, hein, ce serment sur la montagne, tous ces chapitres de saint Matthieu, tout ce qu'on appelle la loi nouvelle. Ouais. Mais voilà la première façon dont Jésus-Christ a donné Dieu aux hommes. Cette loi nouvelle qui est, rappelez-vous, la grâce du Saint-Esprit donnée aux fidèles, aux croyants, par la foi au Christ. Voilà la première façon dont Jésus-Christ nous a donné Dieu, nous a donné la divinité, par l'annonce du royaume de Dieu, par tout son enseignement, l'évangile, si vous voulez. Mais une deuxième façon pour notre Seigneur de nous donner Dieu, bien sûr, eh bien, c'est la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la vérité par l'Évangile, la loi nouvelle, mais également la grâce. Cette grâce que Jésus-Christ nous a donnée par la vertu de son humanité unie au Verbe. Il donne aux hommes la grâce sanctifiante. Cette grâce sanctifiante dont nous avons déjà parlé, c'est une chose qu'on a du mal à réaliser, c'est clair. Cette grâce sanctifiante qui est une participation à la nature divine. Et tant qu'on n'a pas compris ça, je crois qu'on n'a rien compris à la religion catholique. Ouais. La grâce sanctifiante qui est une participation à la nature divine. Quand je suis en état de grâce, eh bien, j'ai en moi effectivement la nature divine. Je suis devenu d'une certaine façon, d'une certaine manière, de la nature de Dieu. C'est invraisemblable. Je suis... Bon, attention, n'exagérons pas, mais j'ai en moi quelque chose de Dieu. Je ne suis plus un homme normal, un homme naturel, je le suis toujours, bien sûr, mais j'ai en plus autre chose. J'ai en moi la divinité. Je ne suis pas Dieu, attention, je ne suis pas le bon Dieu, je suis toujours un pauvre homme, mais j'ai en moi quand même quelque chose de Dieu. Eh oui, je participe à la nature de Dieu. Eh oui, aux dignités du chrétien, hein, disait saint Léon. Et oui, ce n'est pas, je dirais, une sorte de chose qui est plaquée comme ça, ce n'est pas du plaqué or, un petit peu qu'on nous met sur l'âme. Non, c'est notre âme qui véritablement est transformée substantiellement, la substance de notre âme est d'une certaine façon divinisée. Et oui, magnifique ça. C'est ce que dit Saint-Pierre. Ouais. Saint-Pierre, Jésus-Christ nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participant de la nature divine. Participant de la nature divine. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que Jésus-Christ nous a apporté. Vous voyez, la grâce et la vérité. Donc l'enseignement, l'évangile, mais en plus, bon, l'évangile qui est donc un enseignement, mais qui reste un peu extérieur à nous, vous voyez, qui demande à être assimilé, à être compris, ensuite à être vécu. Mais en plus, Jésus-Christ plonge au fond de nos cœurs, de nos âmes, et y infuse, et ça bien sûr Dieu seul peut le faire, y infuse la grâce sanctifiante, hein, cette ressemblance, cette participation à la nature divine. Voilà le premier acte sacerdotal de notre Seigneur, et celui-là, bien sûr, il l'a réalisé. Et puis le deuxième acte sacerdotal, qui est donc de donner les hommes à Dieu, ou de réconcilier les hommes avec Dieu, de ramener les hommes vers Dieu, vers son Père, eh bien sûr le Christ l'a réalisé par ses mérites. Le Christ a satisfait pour nos péchés, hein, nous l'avons déjà vu également, il nous réconcilie à Dieu et nous établit dans un état nouveau de justice. Ouais. Et ça, c'est-à-dire seul notre Seigneur pouvait le faire par son sacerdoce, vous voyez, cette action qui n'est pas seulement une action extérieure, mais qui est une action intérieure, vous voyez, et qui fait suite un petit peu, vous voyez, à la première action sacerdotale, c'est par le don de la grâce. Jésus-Christ qui pénètre dans le fond de nos âmes, dans le fond de nos cœurs, et qui donc va retourner nos cœurs, vous voyez, qui va par le don de sa grâce convertir nos cœurs et les retourner vers Dieu. C'est comme ça qu'il nous réconcilie avec son Père. Ouais. Mais pour pouvoir ainsi pénétrer dans le fond de nos cœurs, mais il faut que d'abord, je dirais, il ait obtenu de son Père le pardon pour nous et la permission, si l'on peut dire, hein, de pénétrer dans nos cœurs pour en refaire des cœurs d'enfants de Dieu. Ouais. Voilà ce qu'opère le sacerdoce du Christ, hein, il nous apporte la grâce qui éclaire nos consciences, qui éclaire nos esprits du dedans. La grâce qui anime, donc, intérieurement nos volontés. Et si la grâce, c'est la présence de Dieu, mais il est sûr que la grâce dans mon âme, la Sainte Trinité dans mon âme, Jésus-Christ dans mon âme, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que vous voulez qu'il veuille? Il ne veut qu'une chose, eh bien, c'est retourner vers son Père, glorifier son Père, et dans mon âme, glorifier son Père. Et c'est ainsi qu'il convertit mon âme. Moi, je n'ai qu'une chose à faire, c'est le laisser faire. C'est le laisser faire, justement, oui. Voilà le sacerdoce du Christ. Vous voyez, c'est ces deux actes, du moins ces deux moments, ces deux phases. Mais en fait, c'est le même acte. Vous voyez. L'acte sacerdotal de notre Seigneur, c'est le même acte. Vous voyez. C'est le même acte sanctificateur qui apporte Dieu aux hommes. Vous voyez, Jésus-Christ donne Dieu aux hommes, donne la grâce et la nature de Dieu aux hommes. Et c'est le même acte, eh bien, qui a pour conséquence, ensuite, eh bien, précisément, d'élever les hommes jusqu'à Dieu, de retourner, de ramener les hommes vers Dieu. C'est ce que saint Paul exprime dans l'Épître aux Colossiens. Dieu a voulu que toute plénitude habitât dans le Christ. Toute plénitude habitât dans le Christ, tout. Voilà. Dieu a tout remis à son Fils. Toute la plénitude de la divinité, etc., tout habite dans le Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils en son corps charnel pour vous faire paraître devant lui saint, immaculé et sans reproche. Voilà. Voilà ce qu'il a opéré, le Christ, par son sacerdoce, à nous faire paraître devant Dieu saint, immaculé et sans reproche. Oui. En nous donnant Dieu, et par ce don de Dieu, eh bien, en nous donnant à Dieu. Ouais. Magnifique, ça. Voilà l'effet du sacerdoce du Christ, et qui est exclusif au Christ. Seul le Christ peut faire ça. Seul l'homme, vous voyez, cet homme qui est Dieu. Et pourquoi il est important de connaître, voyez, le mystère du Christ, voyez. Quoi qu'en dise Luther, cet abominable Luther. Voyez, il est important de comprendre, voyez, ce mystère du Christ autant que nous le pouvons. Parce que seul l'homme qui est Dieu peut être donateur de la grâce. Seul l'homme qui est Dieu peut pénétrer les âmes jusqu'à ce fond essentiel où Dieu seul habite. Voyez. Seul l'homme qui est Dieu peut mériter en toute justice le pardon des pécheurs. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est fini tout ça, ça ne tient pas. Ce n'est pas possible. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas me donner Dieu. Comment le pourrait-il s'il n'est pas Dieu? Il est un homme comme moi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il me donne de plus que ce qu'il a en lui? Alors s'il est Dieu, ah oui, ça change tout. S'il est Dieu, il peut me donner Dieu, bien sûr. S'il est Dieu, il peut se donner lui-même, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà un petit peu le sacerdoce du Christ. Hein, comment, du moins, Jésus-Christ réalise en lui cette définition du sacerdoce, hein, qui est ce rôle de médiateur. Hein. C'est le pont ou le pontife. C'est un petit peu le même mot, pontife, hein, c'est le pont. Il fait le lien. Donc un pont, ça rejoint deux choses, hein, en principe. Hein. S'il est cassé au milieu, c'est plus un pont. Ouais, ça, donc le pont, ça fait le pont entre deux réalités, deux objets, deux choses différentes. Et bien c'est ce que fait Jésus-Christ, il est le pontife. Ouais, il fait le lien. Donc il est médiateur entre Dieu, entre la divinité et l'humanité. Et cette médiation, donc, qui est, on dirait un petit peu. Comment dire ça? À deux sens, mais dans le même moment. Oui. Voilà. C'est dans le même acte eh bien, qu'il donne Dieu aux hommes et qu'il donne les hommes à Dieu. Voilà. Et cette fonction sacerdotale suppose, bien sûr, hein, pour que Jésus-Christ puisse exercer ce sacerdoce, cela suppose chez lui une certaine consécration. Bien sûr, il faut qu'il soit consacré. Toute la vie de notre Seigneur est occupée aux affaires de Dieu, aux affaires de son Père. Nous le voyons bien, rien ne l'intéresse que les affaires de son Père. Et c'est ce qu'il dit à ses parents, à Jérusalem. Mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père? Oui. Donc bien sûr, Jésus-Christ est occupé toute sa vie des affaires de son Père. Mais oui, si nous ne voyons Jésus-Christ que, je dirais, dans cette... la considération de ses activités, je pense que nous ne comprendrons pas ce qu'est le sacerdoce du Christ, parce que ce n'est pas simplement une consécration de ses activités. Il ne faut pas penser, il ne faut pas croire que Jésus-Christ n'a fait que consacrer ses activités, ses occupations au service de son Père. Non, Jésus-Christ est consacré prêtre d'une manière beaucoup plus profonde, d'une manière substantielle. C'est la substance de son être qui est consacrée par son sacerdoce, qui est sacerdotal. Ouais. Et nous aurions du mal, je pense, à imaginer que le Christ soit occupé aux affaires de ce temps. Un Christ occupé à gérer des affaires sociales, à faire de la politique, à gouverner des armées, ou je ne sais pas quoi, tout ça. On ne voit pas très bien de quoi il s'occuperait là. Il le peut, bien sûr. Il aurait très bien pu le faire, ça c'est évident. Étant Dieu, il pourrait très bien, et cela... il lui appartient, hein, ça c'est clair, puisqu'il nous dit même que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Donc il a tout pouvoir, toute autorité, donc il pourrait effectivement s'occuper de tout et traiter toutes les affaires temporelles, toutes les affaires terrestres. Ouais. Là, il ne faut pas l'oublier, cela. Bon, petite allusion, comme ça, en passant. Ouais. C'est ce pouvoir, cette autorité de l'Église sur les affaires temporelles, sur les choses temporelles, il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. Si l'Église est le corps mystique de Jésus-Christ, l'Église a la même autorité que Jésus-Christ et elle a toute puissance sur la terre, ouais, et sur les choses temporelles elles-mêmes. L'Église a autorité sur les choses du temps. Jésus-Christ a tout pouvoir sur la terre et l'Église a donc tout pouvoir sur la terre. L'Église peut donner des ordres aux fidèles dans les choses du temps, les choses temporelles, les choses de la cité, etc. L'Église le peut et même elle le doit. Jésus-Christ a tout pouvoir sur la terre et l'Église a donc tout pouvoir sur la terre. Oui, tout ce qu'il fait engage la divinité. Et donc, c'est pourquoi son existence sur la terre, eh bien, ne peut pas, je dirais, s'occuper de ce qui n'a trait qu'aux affaires simplement matérielles. Oui, bon, il est Dieu. Et son humanité est substantiellement consacrée par l'union au Verbe. Oui. C'est différent, bien sûr, que de ce qui se passe chez nous, pauvres prêtres humains. Et chez nous, bon, ben voilà, nous sommes hommes, etc. Et puis un beau jour, pouf, voilà, on nous donne une grâce supplémentaire qui vient s'ajouter à notre nature, qui est la grâce sacerdotale. Mais la grâce sacerdotale en notre Seigneur, ce n'est pas du tout cela. Ce n'est pas quelque chose qui vient se surajouter. C'est quelque chose qui constitue Jésus-Christ dans son être même. Ouais. Par le mystère de l'union, c'est dans l'union hypostatique. Ouais, vous avez cette nature humaine qui est assumée dès le moment de sa création par la nature divine, par la personne divine, et c'est dans cette assomption, vous voyez, cette union, cette prise en charge de la nature humaine par la divinité que s'opère la consécration sacerdotale. Oui. Donc en fait, la consécration sacerdotale de l'humanité de Jésus-Christ n'est rien d'autre, oui, et bien que la prise en charge de son humanité par la divinité. Dans le moment même où l'humanité est prise par la divinité, elle est consacrée. Elle est consacrée, prêtre. Elle est médiatrice. Oui. Par le seul fait de l'union des deux natures, eh bien l'union des deux natures fait que la nature humaine devient médiatrice. Voilà, ça y est. Elle est au contact de la divinité, elle est en union avec la divinité, mais elle est humaine. Donc, elle fait le pont. Elle est médiatrice entre l'humanité et la divinité, par le seul fait de l'union. Oui. Donc la grâce sacerdotale, le sacerdoce de Jésus-Christ, est quelque chose de substantiel en lui. C'est ce qui le constitue dans son être même. Jésus-Christ est substantiellement, ontologiquement, dites comme vous voudrez, ça c'est, prenez le mot le plus barbare que vous voudrez, est essentiellement prêtre. Ce n'est pas quelque chose de rajouté à sa nature, cela appartient à sa nature, à son être même. Il est prêtre. Il est le Christ. Le Christ. Il n'est pas un Christ parmi d'autres, il est le Christ, le seul. Le seul à avoir reçu l'onction de la divinité. Oui. L'onction sacerdotale en Jésus-Christ, eh bien c'est ça, c'est l'onction de la divinité. Cette humanité qui est prise en charge par la divinité. En nous autres, eh bien c'est très différent, bien sûr. Pour nous, le sacerdoce est une participation à cette grâce d'union, cette grâce sacerdotale, mais bien sûr qu'il ne produit pas la même réalité substantielle qu'en Jésus-Christ. Il est le prêtre par excellence. C'est pourquoi toute sa vie, eh bien toute sa vie sera une vie sacerdotale, puisque son être est sacerdotal. Toute sa vie sera sacerdotale et tous les actes de sa vie seront des actes sacerdotaux. Tous les actes de sa vie seront des actes sacerdotaux. C'est pourquoi Jésus-Christ ne peut pas, je dirais, s'occuper de choses mesquines. Non pas que ces choses-là soient illégitimes, il faut bien que certains s'en occupent, mais ce n'est pas au prêtre à s'en occuper. Hein. Et surtout au souverain prêtre, il est consacré, toute sa vie est sacerdotale. Et c'est le même mystère que doit reproduire le prêtre que nous sommes, nous, les prêtres que nous sommes, dans nos vies sacerdotales. Nous sommes consacrés. Et normalement, bien, toutes nos activités doivent être sacerdotales. Toutes nos activités, les plus légères soient-elles, les plus minimes soient-elles, devraient être également des activités sacerdotales. Et des activités, eh bien, qui mettent en relation l'humanité et la divinité. Ben, voyez que vous priez pour nous. Hein. Ben. Eh oui. Bon, pour Jésus-Christ, bien sûr, c'était dans sa nature même, dans son être même, dans sa substance. Donc, il était porté, bien sûr, par tout son être. Pour nous, c'est un peu plus difficile. Il y a un combat, bien sûr, à mener contre cette vilaine humanité qui veut toujours nous faire redescendre vers le bas. Hein. Bien. Prions pour les prêtres. Hein. Et Jésus-Christ est donc le prêtre, le grand prêtre, le souverain prêtre. Il n'y a pas d'autre prêtre que lui. Bien sûr, on nous donne à nous le nom de prêtre, mais en fait, nous sommes des prêtres que ministres, que vicaires. Et le prêtre, c'est Jésus-Christ. Le sacerdoce, il n'y a qu'un sacerdoce, c'est le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous communique. Il nous communique le pouvoir de son sacerdoce, mais le sacerdoce est à lui. Et le sacerdoce qui est en nous, il n'est pas à nous. Il est en moi peut-être, mais il n'est pas à moi, il est à lui. C'est son pouvoir à lui, dont il me confie la gestion. Voilà, c'est terrible ça quand on y pense. Hein. J'ai en moi à ma disposition le pouvoir de Jésus-Christ, sa puissance sacerdotale. Il est prêtre dans son humanité et non pas dans sa divinité, hein, bien sûr. Ce n'est pas en tant que Dieu qu'il est prêtre, mais c'est en tant qu'homme. Hein. Le prêtre est un représentant de Dieu parmi les hommes. Il est un représentant des hommes auprès de Dieu, donc il est nécessaire à ce double titre, bien sûr, qu'il soit homme lui-même. Hein. Ce n'est pas en tant que Dieu qu'il est prêtre, mais c'est dans son humanité. Hein. Cette onction sacerdotale, c'est son humanité qui la reçoit, bien sûr. Ce n'est pas la divinité qui est consacrée prêtre, mais c'est la divinité qui consacre prêtre son humanité. Et saint Thomas d'Aquin, comme à la suite de saint Paul, si vous lisez l'épître aux Hébreux, qui est une très belle épître, qui nous parle, qui nous traite du sacerdoce de notre Seigneur, Saint Paul commence par établir la supériorité du sacerdoce de notre Seigneur sur toutes les autres dignités, et notamment par rapport aux anges, par exemple. On pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que les anges ne pourraient pas réaliser ce rôle de médiation, voyez ? Ils sont au-dessus des hommes, comme leur nature est supérieure à la nôtre. Ils sont inférieurs à Dieu, mais voilà, ils sont entre les deux, c'est très bien, ils peuvent faire la médiation entre les deux, et non, ça ne marche pas. Bien sûr, les anges peuvent exercer un certain pouvoir hiérarchique, voyez, agir au nom de Dieu auprès des hommes, ça c'est clair, bien sûr. Hein. Et nous le voyons d'ailleurs, nous voyons les anges exercer ce pouvoir hiérarchique. L'ange Raphaël, quand il dit à Tobie, par exemple, « Quand tu priais avec larmes, quand tu ensevelissais les morts, quand tu abandonnais ton dîner, quand tu cachais les morts dans ta maison pendant la journée et que de nuit tu leur donnais la sépulture, j'ai offert ta prière au Seigneur. » Vous voyez, les anges qui prient pour les hommes, bien sûr, et les anges qui veillent sur les hommes au nom de Dieu, qui sont envoyés par Dieu auprès des hommes, bien sûr. Mais attention, hein, cette médiation des anges n'est pas un sacerdoce, ne peut pas être un sacerdoce. Qu'est-ce qui leur manque ? Eh bien, il leur manque deux choses. Il leur manque le caractère divin et il leur manque aussi le caractère humain. Ils ne sont ni Dieu ni homme. Donc, ils ne peuvent pas faire véritablement, vous voyez, cet office sacerdotal de médiation entre Dieu et les hommes. Ils sont auxiliaires du sacerdoce du Christ, mais ils ne peuvent pas être prêtres. Et ils ne sont pas Dieu, donc ils n'ont pas ce caractère divin, donc ils ne peuvent pas donner Dieu aux hommes. Pas plus qu'ils ne peuvent exercer ce ministère, voyez, auprès des hommes qui n'appartient qu'à l'homme. Voyez. Ce qui manque également aux anges, voyez, eh bien, c'est cette nature humaine qui les rendrait aptes à exercer ce pouvoir sacerdotal parmi les hommes. Un ange, par exemple, peut avoir une certaine idée intellectuelle de la misère humaine, savoir ce que c'est que la misère humaine, mais cela restera toujours très abstrait pour lui, car il ne connaît pas la misère humaine par expérience. Oui. Or, l'Épître aux Hébreux nous dit précisément que le prêtre doit avoir cette science expérimentale. Le prêtre peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et ça, c'est important, vous voyez, pour le prêtre, justement, pour donner les hommes à Dieu et donner Dieu aux hommes, et bien être un de ces misérables, un de ces faibles qui ont besoin de la grâce, qui ont besoin de Dieu. Il doit être indulgent pour les ignorants et les égarés. Et donc, il faut que la faiblesse soit aussi son partage. Il doit être un de ces ignorants, un de ces égarés. Et les anges, bien sûr, ne connaissent pas cette faiblesse, ne connaissent pas cette misère. Pas plus qu'ils ne connaissent la tentation. Les anges ne connaissent pas la tentation, ils ne savent pas ce que c'est que d'être tenté. Donc ils ne peuvent pas secourir l'homme, oui, proprement, selon un mode humain dans la tentation. C'est pourquoi Saint Paul nous dit aussi que le pontife doit être enveloppé de faiblesse, afin qu'il puisse compatir précisément à la misère des hommes. Oui. Bon, cependant, bien sûr, les anges peuvent nous fortifier, ils peuvent nous réconforter selon les dispositions de la Providence, bien sûr, hein, comme nous l'avons vu, comme nous le voyons. L'un d'entre eux le faire auprès de notre Seigneur, le réconforter dans son agonie, ils peuvent faire cela, bien sûr, mais c'est un réconfort qui vient toujours de l'extérieur, ouais, sorte de suggestion, je dirais un petit peu, enfin de réconfort, même un petit peu désincarné, ouais. Parce que l'ange n'a pas cette sensibilité, l'ange n'a pas cette humanité, ouais, qui le rend très proche de nous, qui le rend capable justement de nous apporter ces vraies consolations. Qu'est-ce que c'est ? Voyez, le mot consolation, c'est un très joli mot, mais qu'il faut comprendre à partir de l'étymologie. Consoler, c'est cum solo, tenir compagnie à celui qui est seul. C'est beau ça, voyez, c'est ça la consolation. Eh bien, la consolation demande précisément, pour qu'elle soit réelle, eh bien, que celui qui nous tienne compagnie, eh bien, soit un de nos semblables, qu'il soit comme nous, qu'il puisse compatir, qu'il puisse nous comprendre et vraiment nous apporter une compagnie, eh bien, qui soit adaptée à notre nature. Et ça, l'ange ne le peut pas, puisqu'il n'a pas cette sensibilité d'homme, il n'a pas cette nature humaine. Ouais. Et donc, il manque en fait beaucoup de choses à l'ange pour être prêtre. Il n'est pas Dieu et il n'est pas homme. Donc, il ne peut pas être prêtre. Mais ils sont les ministres du sacerdoce du Christ. Ils vont aider le Christ à exercer son sacerdoce. Oui. Voilà la première question donc, que se pose saint Thomas d'Aquin sur le sacerdoce du Christ. Est-ce que le Christ est prêtre ? Bien sûr qu'il est prêtre, hein, puisque à partir de la définition du sacerdoce, ce rôle de médiation. Et le Christ est le seul, en fait, à pouvoir être véritablement médiateur. Oui. Il est le seul à avoir dans sa personne ces deux natures, humaine et divine. Donc, il est le seul à pouvoir être véritablement médiateur. Oui. Donc, il est prêtre, bien sûr. Il a le sacerdoce. Et puis ensuite, autre question, mais qui est celle précisément du sacrifice du Christ ? Que saint Thomas d'Aquin formule d'une façon un petit peu étonnante, du moins qui peut étonner. La question qu'il pose est celle-ci, est-ce que le Christ a été en même temps prêtre et victime ? Oui, il a vu à la question précédente qu'il est prêtre, bon, mais est-ce qu'il a été en même temps victime ? Il est sûr que ça paraît un peu étrange, hein, que la même personne soit en même temps prêtre et victime. Celui qui sacrifie et celui qui est sacrifié. Alors pour répondre à cette question, il est bon peut-être de faire au préalable quelques considérations justement sur ce qu'est le sacrifice. Parce qu'on parle beaucoup du sacrifice, on en parle je pense du moins, mais est-ce que nous savons ce qu'est le sacrifice, hein? Bien, le sacrifice, nous dit saint Thomas d'Aquin, est de droit naturel. Ouais, c'est de droit naturel. La raison naturelle, nous dit-il, saint Thomas d'Aquin, la raison naturelle dit à l'homme qu'il doit se soumettre à un être supérieur pour remédier aux déficiences qu'il éprouve en lui-même et qui le mettent dans la nécessité de recevoir aide et direction d'en haut. Cet être, quel qu'il soit, c'est celui à qui tous les hommes donnent le nom de Dieu. Alors, il est sûr que si vous retirez Dieu, vous retirez bien sûr ce besoin, ce désir justement de se relier à Dieu, et donc vous supprimez le sacrifice, c'est évident, ça, hein, ça c'est clair. Et la raison porte donc naturellement l'homme, oui, la raison, tout homme raisonnable, oui. La raison porte donc naturellement l'homme à faire usage de certaines choses sensibles qu'il offre à Dieu en signe de la suggestion et de l'honneur qu'il lui doit. Voilà. Ça, c'est la raison, tout simplement. Vous voyez, puisque je considère que Dieu est là, et bien que je suis dans sa dépendance, et bien la raison naturelle me porte à reconnaître cette dépendance en lui faisant l'hommage, et bien, de certains biens qui m'appartiennent. Voilà. En signe de cette suggestion, de cette dépendance, et de l'honneur que je lui dois. Et c'est à cela que se rapporte l'idée de sacrifice. L'oblation sacrificielle appartient donc au droit naturel. Le sacrifice est de droit naturel. Et de fait, on a vu ça dans tout, comme nous le disions tout à l'heure, pour le sacerdoce, mais cela va avec. Dans toutes les sociétés, nous voyons les hommes offrir à la divinité, quelle qu'elle soit, des sacrifices. Et le mot sacrifice est un mot un peu complexe, enfin complexe, pas vraiment, mais méconnu du moins, la signification du sacrifice, du mot sacrifice. Que veut dire ? C'est un peu comme sacerdoce, vous voyez ? Sacerdoce, eh bien, c'est celui qui donne les choses sacrées. Le prêtre, du moins, c'est celui qui donne les choses sacrées. Et le sacrifice, eh bien, c'est un peu la même étymologie, sacrum facere, sacrifice, voyez, pour ceux qui auraient fait un petit peu de latin. Eh bien, le sacrifice, c'est donc un acte qui consiste à faire qu'une chose soit sainte, sacrum sacré, saint, facere, faire. Faire que quelque chose soit saint. Voilà ce qu'est le sacrifice. C'est un acte qui donc sanctifie quelque chose. Mais d'autre part, une chose n'est sainte que si elle se rattache à Dieu, puisque Dieu seul est saint. Voyez, si je veux donc sanctifier quelque chose, il faut eh bien, que je la rattache à Dieu, voyez, que je la mette en contact avec Dieu. Et c'est ce contact avec Dieu qui va la sanctifier. Voyez. Et bien, c'est cela le sacrifice. Voyez. C'est mettre une réalité, une chose, bon, en contact avec la divinité pour qu'elle devienne sanctifiée, qu'elle devienne sainte. Et donc, le sacrifice, dans son tout premier sens, doit s'entendre de l'acte qui fait qu'un esprit créé s'unit à Dieu. Voilà ce que c'est le sacrifice, voyez, par la connaissance et par l'amour. Voilà ce que c'est le sacrifice, c'est pas si difficile, ça. Hein? Vous voyez, mais attendez, c'est pas fini. Hein? Ça, c'est le sens premier du mot sacrifice. Et c'est vrai, vous voyez, sacrum facere, chaque fois que mon esprit s'attache à Dieu, eh bien, il est sanctifié, voilà, par le contact avec Dieu. Voilà, je le sacrifie. Et c'est parfois un sacrifice. penser à Dieu, hein, faire 10 minutes, un quart d'heure d'oraison. Quelle est la chose qui doit être sanctifiée au premier chef, sacrifiée donc au premier chef, c'est précisément c'est notre âme, c'est notre esprit. Eh bien, le sacrifice, donc au premier sens, c'est cela, hein, c'est cet acte d'union de l'esprit créé à Dieu par la connaissance et par l'amour. Oui. Et donc tout ce qui contribuera à réaliser cette union à Dieu, eh bien, méritera le nom de sacrifice. Oui. Tout ce qui contribuera, aidera, permettra à l'esprit de s'unir ainsi à Dieu, méritera le nom de sacrifice. Alors il y a plusieurs façons, justement, à ce moment-là, de voir le sacrifice dans la création. L'ange au paradis offre à Dieu un sacrifice. Et qu'est-ce qu'ils offrent à Dieu comme sacrifice? C'est leur louange, leur action de grâce, dans laquelle eh bien, toute leur nature se porte vers Dieu. Voilà. C'est un sacrifice. C'est le seul sacrifice dont les anges soient capables. Sacrifice d'action de grâce, sacrifice de louange, d'adoration. Voilà un beau sacrifice. Oui. L'homme, avant le péché, offrait un sacrifice qui était à peu près le même. Oui. Le même que celui des anges. L'homme n'ayant pas péché, n'avait qu'une chose à faire vis-à-vis de Dieu, eh bien, c'était le louer, lui rendre grâce, l'adorer. Voilà. Il n'avait pas à lui demander pardon, il n'avait pas à expier, à réparer. Et après le péché, alors c'est là précisément bien que la loi du sacrifice va être un petit peu, et même beaucoup, modifiée, c'est qu'après le péché, cette nécessité oui, d'adorer, de rendre grâce, de louer Dieu, va se voir adjoindre une part nouvelle qui est la nécessité de satisfaire, la nécessité d'expier et de réparer après le péché. Oui, mais cette part, cette dimension réparatrice, expiatrice du sacrifice, eh bien, n'intervient qu'en raison du péché. Oui, s'il n'y a pas le péché, vous avez l'adoration, l'action de grâce. Et ça, vous l'aurez toujours. Tout sacrifice comportera nécessairement ces deux réalités. Et la partie ensuite de propitiation, d'expiation, de réparation, elle n'intervient qu'en raison du péché. Et cela, c'est une nécessité absolue. Hein. Et donc, ce côté un peu pénitentiel, douloureux, véritablement douloureux du sacrifice, eh bien, n'intervient qu'en raison du péché. Si l'homme n'avait pas péché, le sacrifice serait demeuré sur la terre, bien sûr. Il aurait continué à offrir des sacrifices, mais qui n'auraient été que des sacrifices d'action de grâce, d'adoration et de louange. Ouais. Et bon, vous connaissez, je pense, les 4 finalités du sacrifice. On apprend ça au catéchisme. Les 4 finalités du... On applique ça, bien sûr, principalement au sacrifice de la messe. Les 4 buts, finalités du sacrifice de la messe. Première finalité, c'est la finalité latrotique. C'est l'adoration. Voilà. Le culte de l'atrie, ouais, tout simplement. C'est l'adoration, mais tant un petit mot savant, ça fait bien. Hein. Bon, c'est l'adoration, donc voilà. Et c'est la première finalité du sacrifice de la messe, c'est l'adoration, le culte d'adoration. Tout honneur et toute gloire. Voilà. Première chose. La deuxième finalité, c'est la finalité eucharistique. Alors, c'est déjà un peu plus. Ça dit quelque chose, un peu plus, ça. Eucharistique, mais attention, eucharistie, ça veut dire action de grâce. Action de grâce. Hein. Donc, première finalité, adoration. Deuxième finalité, action de grâce. Et ensuite, vous avez 2 autres finalités, mais qui, elles, n'interviennent qu'en raison du péché. La 3e finalité, celle qui est refusée par les protestants, notamment, eh bien, c'est la finalité propitiatoire. Propitiation, où Dieu prend pitié. Oui, c'est cette expiation, réparation. Oui. On expie, il faut expier nos fautes. Il faut réparer le désordre, il faut réparer nos fautes. Oui. Et cela, bien sûr, cette dimension, oui, propitiatoire du sacrifice n'a de raison d'être qu'en raison du péché. Et puis la 4e finalité, c'est la finalité impétratoire, ou la demande. Voilà, hein, on demande à Dieu ben, les biens dont nous avons besoin. Oui. 4 finalités du sacrifice de la messe. Et il est évident qu'aujourd'hui, précisément, en raison de l'état de péché, c'est surtout, hein, par cette part propitiatoire, oui, satisfactoire, que se notifie le sacrifice. Hein. Le sacrifice, aujourd'hui, dans notre état de péché, connote de façon nécessaire et essentielle, je dirais, cet aspect de retranchement. Il faut retrancher quelque chose, voyez, de tout ce à quoi nous sommes attachés, de tout ce que nous aimons, pour pour réparer, justement. Oui. Il s'agit de nous arracher un petit peu à cette nature. Donc, il faut retrancher quelque chose pour nous retourner vers Dieu. Et c'est pénible, c'est douloureux, bien sûr. Et parce que nous sommes complètement collés, retournés vers les choses de la terre. Oui. Et donc, oui, cette louange, cette action de grâce qui était spontanée, qui était facile à nos premiers parents, bien sûr, eh bien, nous, quant à nous, aujourd'hui, nous est douloureux. Et c'est pourquoi le sacrifice implique, oui, implique cette part de retranchement, cette part de douleur et de souffrance. Oui. Mais c'est dans cette immolation précisément de notre nature, de tout ce qu'il y a de trop charnel, de trop tourné vers les choses de la terre, c'est dans cette immolation donc, eh bien, que le sacrifice a trouvé comme sa note spécifique, hein, dans l'ordre de la réparation ou de la réconciliation après le péché. Nous ne pouvons pas être réconciliés avec Dieu sans cette immolation, vous voyez, sans ce sacrifice d'immolation. Mais immoler quoi ? Eh bien, tout ce qui nous sépare de Dieu, précisément. Voilà ce qu'il s'agit d'immoler. Il ne s'agit pas de sacrifier n'importe quoi. Il ne s'agit pas de détruire tout et n'importe quoi dans notre nature. Il s'agit de sacrifier dans notre nature ce qui nous empêche d'aller à Dieu. Voilà. Donc, en fait, le sacrifice est une libération. C'est une libération. Voilà, je permets à mon esprit, eh bien, de se retourner vers Dieu, de le connaître et de l'aimer. Dio gracias. Vive le sacrifice. Vive le carême. Ah, c'est du bien, quoi. Eh oui. C'est vrai, mais c'est vrai. Alors, donc, si après ces considérations sur le sacrifice, eh bien, qu'en est-il précisément de notre Seigneur Jésus-Christ ? A-t-il été également victime ? Donc, la question que se posait saint Thomas, c'est celle-ci. Bon, qu'il soit prêtre, ça va bien, nous l'avons vu, il est médiateur, oui. Mais est-ce qu'il a été également victime de son sacerdoce ? Oui. Est-ce que dans le sacrifice qu'il a offert, est-ce qu'il a été également victime ? Eh bien, il faut dire d'abord, bien sûr, que nous savons qu'il a été victime. Mais ce qu'il faut considérer d'abord, peut-être, sûrement, c'est... Bon, rapidement, mais ça, je pense que vous l'avez compris, dirait-ce à la valeur infinie, hein, précisément de la victime qui a été offerte par notre Seigneur. Hein. Jésus-Christ a été l'hostie la plus précieuse qu'on puisse offrir à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez offrir de plus beau, de plus grand, de plus saint, de plus pur, de plus immaculé, de plus sans tache, hein, que la nature humaine de Jésus-Christ, car bien sûr, c'est dans son humanité qu'il a été victime, pas dans sa divinité, oui. Mais c'est dans son humanité qu'il est prêtre. Oui. Tout cela, oui, ce mystère du sacerdoce, c'est dans l'humanité, toujours. Hein. Il est prêtre dans son humanité, il est victime également dans son humanité. Et Jésus-Christ est donc la victime, l'hostie la plus précieuse qui ait jamais été offerte à son Père. Il dit, bon, ben, souvenez-vous un petit peu de tout ce que nous avons pu dire, hein, sur la grandeur de Jésus-Christ. Mais il a été donc prêtre sacrificateur et en même temps victime sacrifiée. Oui, victime sacrifiée. Alors c'est là, bien sûr, que certains peuvent achoper un petit peu, dire, mais enfin, alors s'il est à la fois le prêtre et la victime, ça veut donc dire qu'il s'est tué lui-même. C'est donc un suicide. Non. Est-ce que Jésus-Christ s'est suicidé ? Non. Il ne s'est pas tué lui-même. Alors, s'il ne s'est pas tué lui-même, il n'est pas. Oui, il n'y a pas d'identité dans le sacrifice du prêtre et de la victime. Or, c'est là, précisément, le mystère. Oui. C'est que, dans ce sacrifice de la croix, nous disons, et cela est de foi, qu'il y a identité entre le prêtre et la victime. Alors, s'il y a identité entre le prêtre et la victime, c'est donc le prêtre qui s'est tué lui-même. Non. Et nous savons bien, nous savons très bien qu'à la croix, Jésus-Christ ne s'est pas tué lui-même. Oui. Alors, comment pouvons-nous dire qu'il est à la fois le prêtre et la victime ? Il dirait qu'il soit la victime, je crois, c'est peut-être encore la chose la plus simple à comprendre. Hein. Victime de Ponce Pilate, victime des Juifs, victime des soldats romains, il a été mis à mort, crucifié. Bon, nous voyons bien qu'il est victime. Mais est-ce qu'il est victime de son propre sacerdoce ? Oui, c'est là un petit peu le mystère. Est-ce qu'il a véritablement exercé une causalité efficiente ? Est-ce que c'est lui qui a opéré son sacrifice ? Eh bien oui, car il l'a voulu. Il l'a voulu. Même s'il ne l'a pas fait directement, il ne s'est pas tué lui-même, il a permis qu'on le tue. Et on ne l'a tué que parce qu'il l'a voulu. que parce qu'il a voulu. Hein, nous le disions tout à l'heure, nous évoquions tout à l'heure justement ce passage de l'Évangile qui est la solution à cette question. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et oui, ce sacrifice dans lequel le Christ est immolé, c'est un sacrifice qui est volontaire. Il est mort comme il l'a voulu, quand il a voulu. Il a déposé son âme entre les mains de son Père au moment précis qu'il avait choisi de toute éternité. Et quand il a dit « Père, je remets mon âme entre vos mains », eh bien c'est lui qui a décidé à ce moment-là, eh bien, de mourir. On ne l'a pas tué. On l'a tué ? Ouais, on l'a tué. Si, d'accord, attention, il ne s'agit pas de dire qu'on ne l'a pas tué. Mais c'est lui qui a donné sa vie. Voyez, vous avez donc, si vous voulez, concordance tout simplement de deux volontés. Volonté de ses bourreaux de le mettre à mort, et Jésus-Christ les a laissés faire, parce que lui voulait également donner sa vie à son Père. Donc ce que lui a réalisé, Jésus-Christ, et c'est pourquoi il est prêtre et victime, eh bien c'est qu'il a donné lui-même sa vie, il a arraché donc à un certain moment son âme à son corps pour la remettre entre les mains de son Père, et ça c'est lui qui l'a voulu. Mais ce qu'il a laissé, si vous voulez, un petit peu à la responsabilité et à la liberté de ses bourreaux, c'était la façon dont ils allaient le conduire jusqu'à cette heure-là. Là, il les a laissés faire. Donc, ils sont responsables, ils sont coupables de ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ. Oui. Donc, ils sont responsables de ses souffrances et de sa mort. Mais c'est Jésus-Christ, quand même, qui l'a voulu. Ils n'ont fait cela que parce qu'il l'a voulu, que parce qu'il l'a permis. Mais c'est lui qui, de façon ultime, a consenti à cette mort, a voulu cette mort et a donné son âme à son Père. Oui. Il a consenti à une violence qu'il aurait pu empêcher. Il aurait pu l'empêcher, tout cela. Oui. Mais il a voulu laisser faire. Oui. C'est pourquoi eh bien, le sacrifice de sa vie est pleinement volontaire. Oui. Il est à la fois prêtre et victime. Il est victime, mais il est prêtre. C'est lui qui offre son sacrifice. Oui. Les bourreaux n'offrent pas un sacrifice. Hein. Oui. Les soldats romains qui sont là, les juifs qui sont là, n'offrent pas un sacrifice. Ils commettent un meurtre, un homicide, un déicide même. Il n'y a rien à faire, ça. Ils n'offrent pas un sacrifice, ouais. Car leur intention n'est pas du tout, pas du tout, pas du tout de rendre gloire à la divinité. Hein. Loin de là, hein, en faisant cela. Ils n'offrent pas un sacrifice. Hein. Leur but n'est pas justement ouais, d'unir leur âme à Dieu, absolument pas. Au contraire, ils sont en haine de Dieu, en révolte contre Dieu. Donc ils n'offrent pas un sacrifice. Et pourtant, c'est un sacrifice parce que Jésus-Christ, lui, offre son sacrifice. Ouais. Et c'est le seul sacrifice qui puisse être aujourd'hui agréé de Dieu, le seul sacrifice agréé et agréable et agréé à Dieu. L'homme ne peut plus rien offrir à Dieu qui lui soit agréable. Ce n'est pas la peine qu'il se casse la tête avec le pain de la terre ou le fruit du travail des hommes ou je ne sais quoi. Le bon Dieu n'en a rien à faire. Ça ne l'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Dieu ne considère qu'une offrande aujourd'hui, il ne peut plus considérer qu'une seule offrande, c'est celle de son Fils. Voilà. Cette offrande que Jésus-Christ a réalisée une fois pour toutes et que les prêtres, eh bien, représentent, ouais, sans la répéter, bien sûr, il ne s'agit pas de... On ne peut pas refaire ce qui a été fait une fois pour toutes par Jésus-Christ. Ce que font les prêtres, c'est de rendre présent ce sacrifice, rendre présente cette offrande de Jésus-Christ, ouais. Mais les prêtres ne renouvellent pas, on ne répète pas hein, le sacrifice. Hein. Là, c'est tout le mystère de la messe. Hein. Mais à part cela, rien, plus rien n'intéresse le bon Dieu. Dieu ne peut plus rien considérer. Hein. Et saint Thomas d'Aquin, au sujet de ce sacrifice, voici un petit peu ce qu'il dit, pour résumer un petit peu tout cela. Tout sacrifice visible et le sacrement ou le signe sacré du sacrifice invisible. Il est bien évident que tout ce que nous offrons de façon extérieure à Dieu, nous lui offrons ceci, cela, ou même, dirait cela, nous le vivons déjà dans nos rapports humains, lorsque nous faisons un cadeau à quelqu'un. Bon, c'est pour quoi faire, c'est pas tellement pour lui offrir une pendule ou un je ne sais pas quoi. Moi, ça, c'est... Bon, peut-être dire ça, mais c'est surtout, dirait plutôt le symbole, ce que ça signifie comme amour, comme affection, comme... comme amitié, etc. Et donc le sacrifice visible est toujours le signe sacré du sacrifice invisible. Et c'est cela, bien sûr, qui plaît à Dieu. Ce n'est pas tellement la chose qu'on lui offre que ce qui est signifié, représenté par cette réalité qu'on lui offre. Oui. Or, le sacrifice invisible, oui, nous revenons à ce que nous disions, consiste en ce que l'homme offre son esprit à Dieu. Voilà le sacrifice invisible que Dieu attend de nous, c'est que nous lui offrions notre esprit à Dieu. Il suit de là, c'est une phrase importante celle-là, oui, bon, qui résume un peu ce que nous disions sur le sacrifice, que tout ce qui est offert à Dieu dans le but que l'esprit de l'homme se porte vers lui, oui, tout ce qui est offert à Dieu, donc avec l'intention de permettre à l'esprit humain de se porter vers lui, tout cela peut être appelé du nom de sacrifice. Oui. Tout ce qu'on offre à Dieu pour porter notre esprit vers lui, tout cela peut porter le nom de sacrifice. Et précisément, l'homme a besoin du sacrifice à un triple titre, trois titres. Besoin du sacrifice, l'homme a besoin du sacrifice. Eh oui. Premièrement, en vue de la rémission du péché, qui le détourne de Dieu. Le péché nous détourne de Dieu, et il faut donc racheter, convertir, hein, bon, donc il faut offrir un sacrifice. Secondement, afin que l'homme se conserve dans la grâce. Donc d'abord, il s'agit d'obtenir la rémission du péché. Deuxièmement, il faut se conserver dans la grâce. Il faut donc, si vous voulez, renouveler, répéter, maintenir cette adhésion de notre cœur à Dieu. Hein, donc que l'homme se conserve dans la grâce, adhérant toujours à Dieu en qui sa paix et son salut consistent. Et troisièmement, afin que l'esprit de l'homme soit uni à Dieu dans toute sa perfection, ce qui aura lieu surtout dans la gloire. Vous voyez donc les trois raisons d'être du sacrifice aujourd'hui. La rémission du péché, la conservation dans la grâce, et puis enfin cette union parfaite à Dieu, mais qui ne se réalisera de façon totale et définitive que dans la gloire. Eh bien, ces trois effets, ou ces trois fruits du sacrifice, nous ont été obtenus par l'humanité du Christ, continue saint Thomas. Car d'abord, nos péchés ont été effacés par son sacrifice. En second lieu, nous avons reçu par lui la grâce qui nous sauve. Nous recevons par son sacrifice la grâce qui nous sauve. Et enfin, par lui, nous obtenons la perfection de la gloire. Parce que c'est son sacrifice, eh bien, qui nous introduit dans la gloire. Et c'est pourquoi le Christ lui-même, en tant qu'homme, non seulement fut prêtre, mais encore victime parfaite, existant tout ensemble victime pour le péché, victime du sacrifice pacifique et holocauste. Voilà ce qu'a réalisé notre Seigneur dans son sacerdoce. Ouais. Et c'est tout cela que nous retrouvons dans notre messe, précisément. Bon, ces finalités du sacrifice, sacrifice de la croix, bien nous les retrouvons, ces finalités dans le sacrifice de la messe, bien sûr. Et je conclurai avec un petit passage, là je ne sais pas si vous connaissez, lecture d'une religieuse, une mystique de la fin du siècle dernier, début de ce siècle, Mère Louise Marguerite Claret de la Touche. Vous connaissez certainement tous. Et c'est dommage, c'est magnifique, très beau. Elle a eu, semble-t-il, mais je crois que c'est vrai, des messages du Sacré-Cœur qui ont complété un peu ce qu'avait reçu Sainte Marguerite Marie. Mais des messages du Sacré-Cœur plus proprement destinés aux prêtres. Aux prêtres, oui. Et elle a eu des révélations de notre Seigneur sur le sacerdoce qui sont extraordinaires. Extraordinaires. J'ai dit, c'est... Pour moi, je crois que l'origine est divine parce que c'est pas possible, je dirais. C'est pas possible, quelle que soit la sainteté des religieuses, etc. Je dirais de pénétrer un peu le mystère du sacerdoce sans, quand on n'est pas prêtre. Oui. Mais pour comprendre ou dire certaines choses sur le sacerdoce, il faut le connaître par l'intérieur. Donc il faut ou bien être prêtre, ou bien avoir reçu des révélations d'un peu plus haut. Et elle dit des choses sur le sacerdoce qui sont trop vraies, trop belles, trop profondes, pour que ça ne vienne pas justement du ciel, je crois. Bon, enfin, ça, c'est une autre question. Et là, elle a quelques considérations justement sur le sacerdoce. Ouais. Bon, ce mystère du sacerdoce qui appartient à notre Seigneur, mais qui se reproduit quand même dans ces pauvres prêtres que nous sommes. Hein. Et voici ces considérations qu'elle fait pour montrer. Bon, je pense que vous l'avez quand même. Hein. C'était tout le combat de Monseigneur dans sa fraternité. Un combat pour le sacerdoce. Hein. Donc je pense que vous avez un petit peu ce sens, ce culte du sacerdoce, malgré les misères et les faiblesses des prêtres. Et ça, c'est autre chose. Il faut avoir le culte du sacerdoce. Hein. Vraiment un sens profond de ce qu'est le sacerdoce et de la nécessité du sacerdoce. Hein. Et ne pas justement nous laisser peut-être arrêter par les défauts, les travers, ou ceci ou cela. Ben, qu'est-ce que vous voulez ? Ben oui. C'est ce que je dis tout le temps. Mais aussi longtemps qu'on prendra les prêtres parmi les fidèles, mais si vous voulez, il y aura des clochers, nous, qu'est-ce que vous voulez faire ? Bon, on a nos défauts, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il faudra des murs à sa part, vous voyez, pour qu'il y ait des prêtres parfaits, mais qu'est-ce que vous voulez ? Bon, on essaye, mais expliquer ça, c'est difficile, quand même. Bon, alors il faut avoir un petit peu de compassion hein, pour vos prêtres. Hein. Mais avoir quand même, malgré tout cela, donc le culte hein, du sacerdoce. Hein. Et c'est tout notre combat. Hein. Notre combat, le combat de Monseigneur de la Fraternité, est un combat pour le sacerdoce. Hein. Pour le sacerdoce. Donc les séminaires, etc. C'est le sacerdoce. Hein. Parce que l'Église sans sacerdoce, c'est fini. Nous le disions tout à l'heure, hein, au sujet de la société, de l'humanité. Une humanité qui n'a plus de sacerdoce et qui n'offre plus un culte à Dieu, elle est vouée à la mort. La mort temporelle et la mort éternelle. Et une église sans sacerdoce, c'est une église qui est morte. Elle est morte. Et on veut nous faire une église de mort. Une église sans prêtre. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas l'église de Jésus-Christ, ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est l'église de l'homme, peut-être, mais c'est pas l'église de Christ. Bon, enfin, calmons-nous. Voici ce que dit donc cette brave religieuse-là, sainte... Non, elle est pas sainte, mais enfin, bon. Le cœur du Christ se découvre à nous, etc. Bon, attendez voir. N'est-il pas le Christ, le Verbe éternel du Père, outre ce corps de chair qu'il a revêtu pour mieux s'unir à notre nature, un corps mystique qu'il a formé avec amour et dont il est le chef ? Bon, c'est l'Église, hein ? Et ce corps, comme tout corps vivant, n'a-t-il pas des membres et un cœur ? L'Église est le corps mystique du Christ. Les fidèles sont ses membres et le sacerdoce est son cœur. Oui, le sacerdoce est le cœur de ce corps vivant dont le Christ est la tête. Un corps meurt si sa tête ou son cœur est frappé à mort, car c'est de la tête et du cœur que la vie rayonne dans le corps entier. Mais il peut, sans que la source de la vie se tarisse en lui, voir tomber plusieurs de ses membres. Ainsi, l'Église peut voir parfois, et avec douleur, périr quelques-uns de ses membres, sans que sa vie défaille, car sa tête, le Christ amour, est immortel, et son cœur, son sacerdoce saint, hanté sur Jésus, le prêtre éternel, ne saurait périr. Selon ce plan divin, le sacerdoce, cœur mystique du Christ et vrai cœur de l'Église, est donc, pour celle-ci, un organe de vie, aussi nécessaire, aussi indispensable que le cœur l'est au corps humain. Sans son chef, le Christ, sans son âme, l'Esprit Saint, l'Église n'existerait pas. Mais sans son cœur, sans son sacerdoce, qui la réchauffe et la vivifie, elle serait morte. C'est par lui que le mouvement divin qui lui vient de son chef est communiqué à tous ses membres, que le sang vivifiant de la grâce coule jusque dans ses extrémités, que la chaleur vitale de l'amour réchauffe ses membres. Mais qu'est-il en lui-même, ce sacerdoce saint ? C'est un organe unique, sans doute, mais pourtant composé d'une multitude de parties. Les pontifes, les prêtres, tous les ordres de la hiérarchie sacrée sont ces parties, les molécules, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui réunies ensemble forment le corps du sacerdoce.